On n'a jamais vu autant d'observateurs internationaux pour un si petit pays. On a une mission américaine, une mission Carter, une mission européenne, une mission arabe, enfin de la Ligue arabe, etc. Donc on a quand même plusieurs milliers d'observateurs avec les observateurs nationaux libanais qui sont formés, eux, à travers le tissu associatif qui, lui, milite depuis plus de 15 ans pour la tenue d'un scrutin transparent. Et puis on a par ailleurs toutes ces visites diplomatiques. Effectivement, les Américains l'ont dit explicitement qu'ils ne traiteraient pas avec le Hezbollah. L'aide américaine sera conditionnée par la nature du prochain gouvernement, ce qui laisse présager d'une tension relativement forte, notamment dans la nomination du prochain gouvernement, dans l'acceptation surtout des résultats quels qu'ils soient. Puisque jusqu'à présent, les sondages donnent une petite majorité à l'actuelle opposition, donc cette alliance Hezbollah, Amal et parti CPL, le courant patriote du général Aoun. Donc la question va être quelle sera la réaction des parrains étrangers.
Dans le contexte de résultats serrés avec la reconduction d'un gouvernement d'union nationale, est-ce que la figure du président Sleiman peut être un facteur de stabilité?
On a parlé d'une troisième voie qui serait portée par le président, etc. On peut envisager une possibilité de recomposition justement des équilibres à travers cette personnalité qui serait le président. Le président qui, lui, jusqu'à présent, a maintenu une image de consensus, parle à tout le monde, a d'une certaine manière un peu réhabilité le Liban sur la scène internationale en multipliant les visites de part et d'autre, etc. C'est un homme qui a été chef de l'armée sous le régime syrien, donc il est en bonne relation avec les Syriens, en bonne relation avec toutes les parties. La question est de savoir dans quelle mesure il peut continuer à jouer ce rôle de consensus à partir du moment où on sera peut-être sorti, c'est peut-être là l'enjeu crucial de ces élections, de la période Doha. La trêve, alors la question est de savoir est-ce que c'est une trêve ou est-ce que c'est un pacte qui a été signé à Doha, qui a permis justement de maintenir cette stabilité relative jusqu'au jour du scrutin. Est-ce qu'on va sortir de cette période de Doha ou pas? Et là, pour le coup, on pose la question du rôle du président, puisque la consensualité autour du président a été permise par cette stabilité relative depuis un an. Après, la question se pose.
La communauté chrétienne représente 30% des électeurs. Est-ce qu'elle peut servir d'arbitre dans ce scrutin?
Elle est divisée entre les deux camps. Et par cette division, en fait, fait fonction, pas d'arbitrage en tant que tel, mais de swing. C'est-à-dire qu'on a donc d'un côté le CPL, le général Aoun et ses sympathisants, de l'autre côté, les forces libanaises et les phalanges qui sont alliées donc au 14 mars. Avec des enjeux extrêmement localisés, puisque l'accord de Doha a établi un nouveau découpage de circonscriptions qui a reconfessionnalisé le scrutin en donnant des circonscriptions plus petites, donc plus homogènes, et les circonscriptions les plus stratégiques sont les circonscriptions chrétiennes. Après cela, au moment de la nomination du prochain gouvernement, de la composition de la nouvelle chambre parlementaire, ce qui va être intéressant d'observer, c'est les prises de position politiques en termes de réformes, en termes de programmes politiques, etc., dans la gestion des affaires du pays. Quelles vont être les revendications du partage du pouvoir au sein du prochain gouvernement de ces chrétiens, de ce bloc du 8 mars, par rapport à leurs alliés?